L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. À l'occasion de la 4e rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette 4e rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Bonjour Stéphane Veillère.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et co-gérant de la Manufacture Coopérative. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette structure ?
La Manufacture Coopérative, c'est une coopérative qui rassemble à la fois des actrices, des acteurs de l'économie sociale, surtout du monde coopératif, mais pas que, ainsi que des universitaires, que des chercheurs académiques. On essaye tous ensemble de travailler les questions de la coopération en tant que telle, de la coopération en tant que projet de transformation sociale, ce qui implique à la fois de chercher, d'organiser des formes d'accompagnement mutuel entre organisations d'économie sociale, des rencontres, des séminaires, de publier des choses, de produire des outils, etc. etc.
Alors, cette coopérative a été créée depuis combien de temps ? Elle rassemble combien de personnes pour qu'on ait un peu une idée de la taille ?
C'est une petite coopérative. Elle n'a pas vocation à être grande, d'ailleurs. C'est aussi un lieu un peu de connivence, je dirais, entre les personnes qui la composent, entre les associés qui la composent. Donc, on doit être à peu près une cinquantaine. Et ça existe depuis un petit peu plus de 10 ans.
D'accord. Alors, aujourd'hui, on va se parler du management au sein des structures relevant de l'économie sociale et solidaire. Je vous vois lever les sourcils. Pourquoi ?
Parce que c'est une question, c'est souvent une boîte noire en fait à l'intérieur de l'économie sociale. L'économie sociale, elle se caractérise beaucoup par des formes de rapport à la propriété, de rapport au pouvoir qui sont différentes de l'économie classique, et donc des gouvernances qui sont tout à fait particulières sur lesquelles on peut parler pendant des heures et sans aucun problème et que l'économie sociale assume sans aucune difficulté. En revanche, quand on ferme la porte du conseil d'administration, quand on clôt l'assemblée générale et qu'on retourne dans l'organisation concrète du travail, souvent on fait un petit peu la même chose que les autres, quoi. Et c'est à la fois souvent difficile d'en parler. Beaucoup d'actrices, d'acteurs considèrent qu'il y a bien là quelque chose qui cloche, que l'on ne devrait pas faire la même chose qu'ailleurs, à l'intérieur de l'économie sociale. Et pour autant, les injonctions de gérer une entreprise selon les bonnes formules et les bonnes règles de gestion s'imposent. Et donc on a un petit peu tendance à faire exactement, à reproduire ce qui peut se passer, notamment en termes de management dans les entreprises classiques.
Donc, est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple concret pour qu'on comprenne bien comment ça se joue au sein d'une structure de l'ESS et pourquoi vous avez utilisé ce mot « ça cloche » ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être un petit peu obligé peut-être de penser les choses différemment ?
Alors, l'économie sociale, elle s'est construite à l'origine beaucoup autour de la question du travail. Notamment avec les premières associations ouvrières au 19e siècle, etc. Mais le développement de l'économie sociale, la démultiplication des organisations, des statuts associatifs, mutualistes, coopératifs dans toutes les formes, etc., a finalement amené le développement d'organisations dans lesquelles le travail n'est plus central. On reconnaît une organisation d'économie sociale à ce qu'on appelle la double qualité, le fait que le sociétaire ou la sociétaire est à la fois membre d'un groupement de personnes et bénéficiaire des services, des produits qui sont produits par une entreprise. Dans 99% des cas, en fait, le sociétaire ou la sociétaire, elle n'est pas le travailleur ou la travailleuse de l'entreprise. Donc, on a tendance à séparer le groupement de personnes de l'organisation du travail et à ne penser qu'en termes d'entreprise. Tout nous y incite, hein. Le droit européen, par exemple, un droit qui ne reconnaît pas une identité spécifique associative, l'existence d'un fait associatif dans sa complexité, dans le fait qu'il y ait des groupements de personnes, le réduit simplement à une forme d'entreprise qui aurait un but non lucratif. Donc tout pousse en effet à ce qu'on considère nos petites organisations comme de simples entreprises, et des entreprises qui sont sur des marchés comme les autres, qui doivent se battre sur ces marchés-là et qui donc quelque part reproduisent les méthodes, les manières de faire de tout un chacun sur ces marchés.
Alors, est-ce qu'elles ne reproduisent pas les manières de faire de tout un chacun sur le marché, comme vous venez de le dire, parfois en pire, c'est-à-dire sans vraiment respecter les horaires qu'ils devraient respecter, peut-être avec des contrats de travail qui sont peut-être un peu moins bien ficelés pour le salarié? Est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu là-dedans?
Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi, je le nuancerais aussi parce que pendant longtemps, on n'a pas regardé ça. On ne l'a pas regardé en face. On l'a nié. Et je pense qu'il était en effet nécessaire de mettre le doigt dessus. Oui, l'emploi associatif, c'est un emploi qui est plutôt dégradé, dans lequel il y a beaucoup de temps partiel, dans lequel il y a des salaires qui sont inférieurs à ceux que l'on trouve à côté, dans lequel on trouve parfois des injonctions, en effet, à travailler plus que de mesure pour la bonne cause, dans lesquelles la fonction employeur n'est pas toujours assumé dans les petites structures, ce qui amène à des désastres. Et tout ça a été occulté pendant très longtemps. Là, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années, maintenant, avec notamment les travaux initiaux de Mathieu Elie, qu'on s'intéresse à ça, qu'on met le doigt dessus. Je pense qu'il y a eu une amélioration, en fait, ces 20 dernières années. C'est important de le regarder. C'est aussi important de regarder en sens inverse. Il faut arrêter de s'auto-flageller aussi en permanence. Le fait que dans l'économie sociale, il y a aussi des pépites, il y a aussi une démultiplication de petites pratiques de gestion d'entreprise au quotidien qui sont hyper intéressantes, qui sont novatrices, qui sont émancipatrices. Dans telle ou telle organisation, on va déterminer les salaires collectivement et selon des méthodes tout à fait originales et innovantes. Enfin, voilà.
Alors, est-ce que justement ce que vous décrivez pourrait être source d'inspiration pour des entreprises relevant du système libéral ?
Alors, que ça soit une source d'inspiration, ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Les grandes entreprises capitalistes, notamment, depuis 20 ans, 25 ans, au travers notamment de l'entrepreneuriat social, du social business, de fondations comme Ashoka, etc., s'intéressent beaucoup à ce qui peut se passer à l'intérieur du monde de l'économie sociale, notamment du monde associatif. On pourrait détailler les raisons, mais une des raisons est une très mauvaise raison, qui est qu'en effet, dans l'économie sociale, on arrive à mettre au travail les gens gratuitement. En tout cas, c'est comme ça que les grandes entreprises l'interprètent. C'est plus compliqué que ça. Le bénévolat, c'est pas du travail gratuit. Mais c'est comme ça que c'est interprété. Donc que les grandes entreprises classiques regardent ce qui se passe à l'intérieur de l'économie sociale, aillent picorer en permanence des outils d'éducation populaire, des outils de démocratie d'entreprise, et les utilisent, mais les utilisent de manière, je dirais, un peu dégradée, ça ne fait strictement aucun doute. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'elle n'envierait pas ces entreprises aussi un investissement un peu différent de la part des salariés pour les raisons que vous avez évoquées, hein, à savoir du sens, à savoir une mission sociale? Est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'elle souhaite justement pour fidéliser, engager davantage les salariés qui ont un petit peu de mal à se stabiliser, il faut bien le dire?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas nouveau, enfin on peut... On parle beaucoup en ce moment-là du sens, de la grande démission, de ces jeunes qui ne veulent plus avoir le même rapport au travail, etc. C'est pas nouveau. Il y a une vingtaine d'années, moi je me souviens très bien de la manière avec laquelle la première vague de développement de start-up internet avait fait fuir de grands cabinets de conseil, de grandes banques d'affaires, un certain nombre de cadres. Et de la même manière, on s'était ému de ça. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que le grand rapprochement entre le monde capitaliste et l'économie sociale s'est fait au travers du mécénat de compétences, au travers du social business, au travers de tout un tas d'institutions et de mécanismes qui, en fait, permettent aussi d'avoir, comment dire, d'introduire à l'intérieur des politiques RH des grandes sociétés des éléments que l'on va voler, je dirais, à l'économie sociale. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. En revanche, ce que l'on ne voit pas, tant que l'on picore des outils, on ne transforme rien. En réalité, ce qu'il y a sans doute de passionnant, de fondamental à l'intérieur de l'économie sociale, bah, c'est par exemple l'histoire de l'autogestion. C'est toute une tradition, tout un corpus de pratiques, d'expériences qui sont extrêmement importantes et anciennes, d'autogestion, qui là, pour le coup, ne considère pas l'autogestion simplement comme une organisation du travail, mais comme un projet politique de transformation sociale. Moi, je lis derrière la grande démission de la part des jeunes, surtout un refus du salariat et un refus de la subordination salariale. Bon, bah, l'autogestion, elle a des réponses. Elle a des réponses.
Donc les porosités sont possibles, vous l'avez dit de façon nuancée, mais elles sont aussi nécessaires pour tout le monde.
Il y a une nécessité pour l'économie sociale, peut-être pas en tant que secteur, peut-être pas ses entreprises elles-mêmes, mais l'économie sociale comme tradition de pensée, comme mouvement d'organisation et de pratique, comme collection d'expériences, il y a sans doute une nécessité qu'elle parle plus haut et plus fort qu'elle ne le fait aujourd'hui de manière limitée au sein de ses propres ouailles. Moi, je prétends que l'économie sociale, en effet, est apte à porter quelque chose qui ressemble à un projet politique et qui pourrait s'adresser, en effet, à tout le monde. Oui.
Eh bien, merci Stéphane Weyer pour cet éclairage très nuancé. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.